La 17e édition de MuTech se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Maker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutech.org.
Pour prendre un verre entre amis, rien de mieux que le Bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le Bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le Bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Sur choc.ca.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en stock, Pop 96, mais ça se peut que je me trompe. Aujourd'hui, en fait, à Pop en stock, on est ici pour ramager un bien grand homme. Et pour faire cela, on s'est entouré de très grands hommes. Ça me fait absolument plaisir de présenter quelqu'un que ça fait longtemps que je veux qu'il vienne participer à l'émission parce que c'est une personnalité d'abord et avant tout, enrobé dans un magnifique cerveau, habillé des plus beaux vestons de l'Université de Montréal. Jean-François Thériault.
Bonjour.
Salut, t'as très bien compris. Tu mets le petit casque sur les oreilles, tu parles
dans le micro.
Exactement. Jean-François, merci beaucoup de joindre à nous aujourd'hui, surtout que t'es déjà quelqu'un qui est très aisément capable d'aborder les sujets pop. Tu le fais avec les comédies musicales québécoises au officiel.
Jadis, dans mon autre vie.
C'était tellement badass. Pour accompagner un autre grand homme non moins séduisant, Antonio. Vraiment?
Salut!
Bonjour! Ça faisait très longtemps.
Oui, ça faisait longtemps, purée. Il fallait.
Yeah. Je suis particulièrement heureux. En fait, vous êtes vraiment les meilleures personnalités slash cerveau slash habillement pour être capable de parler de cet homme-là qui nous a quittés en mars. Quelque chose comme ça, ouais. Si je me rappelle bien, dans les alentours du mois de mars 2016.
Dans cette année de 2016 qui ne finit plus de tuer les gens.
Mmh, ouais. C'est vrai, c'est là on sent le côté enfin, générationnel.
Oui, vraiment, vraiment.
Umberto Eco, qui est décédé, et qui laisse quand même une traînée de larmes derrière lui, ouais. Surtout de la part de nous, académiciens. Et ici, je vais citer très librement Gabriel lors d'un voyage ensemble, mais à l'annonce, en fait, de sa mort, il s'est tourné puis il a dit « Mais c'est super le fun qu'on ait eu des gens comme Echo et comme Bart qui ont vécu assez longtemps pour valider beaucoup nos sujets de recherche.
Oh, » Bart n'a pas vécu très longtemps, par contre.
Non, mais il a quand même...
frappé par un camion de lait. 44 ans, ça? 50 ans?
Je sais pas, mais en fait, il de par sa présence et quelques-uns de ses textes, notamment « La vie où l'on
son
catch », il nous permet d'étudier la lutte professionnelle derrière les portes universitaires. Puis c'est on doit énormément à ces auteurs-là, notamment ces deux grands hommes-là. Et Christeva, mais elle est toujours vivante, ça fait que ça va bien.
On
n'en
parle pas.
Non, tantôt, on va en faire une autre fois. Mais c'est très agréable d'avoir ces gens-là qui ont réussi à faire qui ont publié des textes très, très, très influents et qui ont engendré des réflexions qui nous permettent en quelque sorte de justifier nos orientations plus populaires à l'université. Mmh. Fait qu'essentiellement, c'est très simple pour les gens qui ne connaissent pas trop la dynamique universitaire. Quand j'arrive dans un cours de fin de session puis que je dis « Hey, je voudrais vraiment, vraiment travailler sur Superman », si Echo n'avait pas existé ou s'il était mort peut-être beaucoup plus jeune, le professeur aurait probablement plus de chance à lever le sourcil et à dire « Mais... mais vous vous basez sur quoi? Mmh. Mais moi, très rapidement dans mon parcours universitaire, j'ai pu lever un petit livre qui s'appelait « Du Superman au Surhomme » et telle une carte de métro, de Monopoly, passer go et réclamer 200 $ en faisant comme « ting ».
Réclamer son A+.
Ouais, ça a toujours été, il a toujours été très, très, très utile. Puis c'est pour cette raison-là que son départ, pour moi, se fête pas dans une tristesse, mais vraiment dans une célébration. Je suis comme « yes, merci ». Pour tout ça. Mmh. Et c'est pour ça que je suis très, très content de vous avoir, vous deux, parce que j'imagine que vous avez un peu vécu la même chose lors de vos parcours, de brandir Écho et de dire « Oh yeah! »
Oui, non, tout à fait. Ben, en fait, ce qui est surprenant, c'est que tu citais avec Bart, et puis effectivement, il y a un effet de non seulement de génération, mais de propos communs. Et Umberto Eco débarque très tôt dans la culture populaire avec un livre qui, à ce jour, est resté comme tel inédit en français. Il n'y a pas de traduction, ce qui est très dommage parce que ça s'inscrit un peu dans ce que tu viens de dire. Le livre avait été dès sa parution italienne traduit en français, ça aurait aussi encore davantage ouvert les portes de l'analyse de la culture populaire. Ce livre, c'est Apocalittici e Integrati, donc Apocalyptique et Intégré, de 1964. Alors la date est importante parce que ça fait partie, c'est véritablement un pilier de la naissance des études pop. On est en pleine vague d'un côté en art, le pop art. Barthes a publié Mythologie en 57, la même année que Hogarth avait publié Uses of Literacy, donc qui fondait un peu ce qui allait devenir les Cultural Studies, et que Rosenberg et d'autres éditaient Mass Culture Popular Arts in America. Tout ça en 57. Ensuite, il y a Communication, la revue qui est créée en 61, alors par un trio dont on oublie toujours un, et d'ailleurs de façon assez... Il y en a toujours un, c'est un peu comme les Beatles, les Stones et tout ça. Il y en a toujours un qui n'est pas là pour la picture finale. Celui qui n'est pas là, c'est George Friedman, qui est pourtant celui qui est à l'origine du truc, parce que lui, finalement, il a ouvert la porte, et c'est pour ça que c'est très intéressant, ce côté initiatique de la pop, etc. Il a ouvert une porte qu'il a complètement dépassée, parce que George Friedman, il était héritier de la méthode vraiment traditionnelle des premières études sur ce qu'on appelait la communication de masse, c'est-à-dire l'école de la Mass Communication Research de Lazarsfeld aux États-Unis. Et donc lui, il essayait d'introduire ça en France et il crée donc cette revue Communication, mais il la crée avec Roland Barthes et avec Edgar Morin qui, eux, vont faire une sorte de, non pas un putsch, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, ce serait très intéressant de faire l'histoire culturelle de la revue Communication, j'espère que quelqu'un va s'y attarder, c'est sûrement un sujet de thèse.
Simon Laperia.
Quelqu'un probablement, peut-être Simon, je ne sais pas si ça l'intéressera autant que ça, mais en France, où ils sont très dans le mémorialisme, etc., ce sera probable. Mais en tout cas, une revue fascinante qui a inauguré... Enfin, Poppenstock, quand on a eu l'idée au début, c'était véritablement dans la lignée des études de communication. Et c'est l'équipe dans laquelle va s'intégrer Eco. Alors, Barthes et Morin, contrairement à Friedman, qui est encore dans l'idée très statisticienne, analyse d'audience et tout ça, la façon dont on analyse au tout début dans les années d'après-guerre la culture de masse, Morin et Barthes impriment ce qu'on peut appeler le tournant sémiologique ou socio-sémiologique qui lui s'intéresse beaucoup plus au contenu, ce qui mène Morin à écrire L'Esprit du Temps en 62, donc 64 Eco, Apocalyptici Integrati, il embarque complètement dans l'aventure communication. C'est dans communication qu'il va écrire le texte auquel tu faisais allusion, le mythe de Superman, mais beaucoup d'autres, dont la chanson de consommation, beaucoup de choses, James Bond, enfin, des choses très intéressantes. Et en 64, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est l'année non seulement de la création du Center for Contemporary Cultural Studies à Birmingham, donc la création officielle du mouvement, c'est aussi un livre qui est moins cité, mais qui est quand même fascinant, Popular Arts de Stuart Hall et Wannell, et c'est l'année de Understanding Media. Donc 64 est vraiment une explosion de ce qui est de compréhension de tout ça. Et Umberto Eco se situe là-dedans tout à fait au même niveau que toutes ces autres, publications. Il inaugure une école vraiment italienne de sémiologie dont il va être la figure de proue, qui est malheureusement peu connue du public francophone, mais il y a des gens très intéressants comme Paolo Fabbri, Cesare Segre, Omar Calabrese, duquel j'ai beaucoup parlé par rapport à la question du néo-baroque, etc. Alors, Apocalyptici Integrati, ce qui est tout de suite intéressant, c'est qu'Umberto Eco, il se démarque de la vision qu'on a de la culture populaire à ce moment et avec ce partage des eaux. Les apocalyptiques et les intégrés. Les apocalyptiques, c'est tout à fait la tradition de, dans un vaste spectre qui va de l'école de Francfort jusqu'à... il anticipe même finalement les critiques que Debord va faire 3 ans plus tard dans la Société du spectacle. C'est finalement une vision absolument assez dantesque de la culture de masse, précisément avec ce terme de culture de masse qui n'est pas le même que culture populaire et c'est, chaque terme a son importance. Et, oui.
Donc, c'est le truc qui va venir tout démolir.
En fait, ce qu'il va faire, c'est que d'un côté, il va montrer les arguments des apocalyptiques qui disent c'est monstrueux, c'est l'aliénation totale, c'est la répétition, c'est la conformité, etc. C'est les textes d'Adorno et Horkheimer, etc. Et d'un autre côté, il va dénoncer aussi les intégrés pour qui tout est parfait, tout est génial, parce que finalement... alors, les arguments sont intéressants parce qu'ils circulent encore, les arguments, autant des apocalyptiques que des intégrés, les arguments, c'est vraiment un pour contre très youtubesque de la culture
thumbs up, thumbs down.
Alors d'un côté évidemment il y a dans les intégrés ils vont dire que ce n'est pas seulement la culture de masse n'est pas seulement du capitalisme mais que c'est aussi une forme de démocratisation populaire puisque ça crée enfin une culture véritablement démocratique qui permet à l'accès à la culture à des gens qui n'en avaient qui en avaient été exclus et donc ça va de pair avec l'explosion démographique des étudiants de ces années-là, qui vont finalement aussi avoir beaucoup à voir avec la 68, tous les mouvements, pas seulement à Paris, mais un peu partout dans le monde. Ouais. Donc, il y a ce côté-là, qui a toute une masse de gens. C'est la première génération pour beaucoup de gens qui arrivent aux études, notamment aux études supérieures. Ça va beaucoup changer aussi l'univers de l'université, un peu comme ce que tu évoquais tout à l'heure, Jim, mais ça continue de toute façon, cette question-là. Alors, des gens qui réussissent à avoir des livres de poche, en format poche, alors que jusque-là, l'accès aux livres était assez limité, etc., etc. Donc, il y a des raisons de célébrer et il y a aussi, évidemment, Eco, qui est quand même en plein, on est en plein grande époque du marxisme en Italie comme ailleurs, mais assez particulièrement en Italie, et des grands représentants du courant marxiste. Eco connaît tout à fait aussi la critique de l'aliénation. Alors, ce qui est assez typique de ce qu'il va toujours faire, c'est qu'il va désigner une sorte de troisième voie qui est un peu une sorte de juste milieu. Et c'est ça qui fait de Eco un éternel classique. Et c'est peut-être parce qu'il avait consacré sa thèse au Moyen-Âge et à l'esthétique au Moyen-Âge chez Thomas d'Aquin. Mais c'est cette idée. Il va se dire, finalement, il faut comprendre ce qui arrive. Oh, il ne faut pas dire, il ne faut pas juger de dire c'est bien, c'est pas bien. Il faut comprendre les mécanismes. Il y a autant de raisons de s'inquiéter que de célébrer. Il faut garder un équilibre entre la célébration et l'inquiétude, voir quand ça dérape, voir c'est quoi, et permettre aux gens de comprendre réellement dans quel monde ils vivent. Il a une phrase qui est assez forte et importante. Chacun de nous ne voit que ce que sa culture lui a enseigné à voir et lui permet d'imaginer. Donc c'est cette idée qui est très importante. Il faut vraiment comprendre le monde dans lequel on est. Et cet impératif qui va de pair avec sa trajectoire pédagogique impressionnante et qui nous redonne foi dans l'université, finalement, des gens comme Eco, c'est ça qui est bien.
Si tu me permets, c'est quelque chose qui marque beaucoup chez Eco. Hein. C'est toujours cette entre-deux-chaises qui fait qu'on a souvent l'impression qu'il est assez ambigu dans ses positions, finalement. Ça fait... juste dans le recueil « Le mythe de Superman », dans certains essais, il peut dire un truc qui est complètement le contraire dans l'autre. Il a souvent cherché peut-être une espèce de juste milieu, peut-être parfois un peu, j'ai l'impression, un peu maladroit, qui faisait un peu...
C'est peut-être une position qui est inconfortable, parce que c'est pas une position qui est simple. Évidemment, quand il le dit, apocalyptique et intégré, il dit, il y a deux camps qui sont très clairs là-dedans. Et,
comment qu'il appelle le troisième clan?
Non, il n'y a pas de troisième clan, c'est Eco. C'est clan Eco, c'est lui qui ouvre. Enfin, il inaugure ça, puis on peut dire que réellement, il inaugure, parce que...
Je me ferai une petite badge, moi, si
avait un nom.
Ouais, ouais, c'est vrai, on peut trouver, on peut essayer de trouver. Il faudrait exhumer le, dans, dans le texte, chercher. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu en penses aux autres.
Blason, comme dans Drive, là, ouais. Un scorpion doré dans l'eau avec ça écrit. Ouais,
c'est ça.
Ça mais, biffe un université.
Ben, non, mais c'est, en même temps, c'est très taoïste et tout ça. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une contradiction parce que de l'avoir beaucoup enseigné, parce que quand on enseigne, c'est là ouais. qu'on apprend vraiment les trucs parce qu'il faut être obligé de vraiment d'aller dans les tripes et puis de t'assumer le truc puis de l'exposer et de le transmettre. Donc je ne dirais pas qu'il y a de contradiction. En fait, c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a des paragraphes qui sont faussement simple. Echo a une lecture beaucoup plus, a une écriture beaucoup plus limpide que ses contemporains. Oui, ça, oui, c'est clair. Et c'est d'ailleurs un des grands plaisirs
qu'on a. On le présente toujours, en tout cas, moi, à l'université, quand dans mes cours de l'histoire de la critique littéraire, comme le bon gars. Oui. Vraiment, premièrement, parce qu'il considère le lecteur. On leur enseigne toujours du côté des théories de la lecture. Mais Echo est toujours vu comme justement cette figure-là bienveillante.
Hein, oui. Puis je pense que ça lui a collé. Alors, je pense que c'est un personnage beaucoup plus complexe, comme les grands penseurs. Mais c'est vrai qu'on en fait une sorte de Father Christmas de la théorie littéraire. Mais ce n'est pas, ce n'est pas des contradictions. Tu parlais de la lecture à l'instant. Et là aussi, il refait le même jeu de la troisième voie. Parce qu'il dit finalement, moi je ne suis pas du côté des déconstructivistes fous où genre le texte, c'est chacun fait ce qu'il en veut, puis on s'en fout, on peut dire que Superman est fasciste, comme on peut dire que Superman est communiste, puis on n'a pas à donner des preuves, donc ça c'est vraiment la déconstruction extrême. Et de l'autre côté, il n'est pas non plus d'accord avec les théoriciens du texte qui est comme une Bible à chaque fois, qu'il faut entièrement respecter. Donc il essaye de trouver à chaque fois. Mais c'est sûr que du coup, alors qu'on est beaucoup dans des extrêmes en général, dans les théories, ça lui prête aussi le flanc à différentes critiques. Parce que, et précisément, beaucoup de gens vont trouver qu'il n'est pas assez loose avec le lecteur parce qu'il le ramène quand même au texte. Et puis, en même temps, moi, je suis assez... pour l'avoir beaucoup utilisé aussi dans mes analyses et tout ça, je trouve que c'est bien qu'il existe ce juste milieu. Parce que le monde de la théorie est souvent embarqué parce que Antoine Compagnon a appelé le démon de la théorie. Et effectivement, il y a des phrases qui sont très belles et qui nous emmènent très loin dans cette sorte de sublime romantique, parce qu'on est beaucoup quand même dans l'héritage de la théorie du sublime romantique, qu'on le veuille ou pas, notamment les déconstructivistes. Et finalement, c'est bien aussi de ramener un peu de clarté méditerranéenne. C'est un peu ce que Echo a fait avec ça. Et puis, je pense qu'il faut beaucoup de mauvaise foi pour vouloir lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Je pense qu'il a essayé à chaque fois d'être soucieux dans la façon dont il rend compte des positions des uns et des autres. Et puis, il a toujours essayé de se trouver un peu quelque part pour trouver une sorte de terrain d'entente. Et c'est là où je pense qu'il y a un vrai respect du lecteur dans tout ce qu'il fait, pas juste dans ses théories sur les lecteurs. Mais,
j'aime ça, en fait, parce que c'est un monstre sacré. C'est dans ces grands noms que tu cites dans une conversation pour taire ou pour faire sonner l'argument d'autorité, mais vous le personnifiez vraiment d'une belle façon. C'est un bon gars, c'est ça?
Non, et puis je pense que lui, il n'a jamais voulu être qu'un monstre sacré, parce qu'il est beaucoup revenu sur ses textes, et à chaque fois, avec des visions assez, assez intéressantes. Par exemple, sur Apocalyptici Integrati, Bompiani, parce que ça a été quand même un best-seller, ce qui est aussi très intéressant, un des rares qui réussit à franchir ça, avant même qu'il soit romancier. Mais Bompiani a fait l'édition 30 ans, et du coup, ils lui ont demandé, bon, qu'est-ce que vous pensez des 30 ans après Apocalyptici Integrati? Puis il revient avec un texte où il réfléchit sur ça, etc. Donc, je pense aussi que c'est intéressant, contrairement à la position de la vache sacrée qui a dit d'une bonne fois pour toutes son mantra, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui était prêt à revenir sur ses positions, puis d'ailleurs qui a montré aussi une grande liberté dans ses recherches. Le Apocalyptici Integrati, comme je dis, c'est très triste que... En fait, ce qui est triste, c'est qu'il n'y ait pas eu de réception française. Parce que finalement, on peut le traduire maintenant, mais ça n'aura vraiment plus aucun intérêt dans un certain sens. Pourtant, c'est un manque, c'est un vrai vide qu'en 64, il n'y ait pas eu ce texte. Pourquoi ? Parce que dans ce texte, il y a premièrement un article qui... ça commence précisément par... les positions, établir les positions très claires, comme je l'ai dit, entre les critiques de la culture de masse et la célébration. Et puis finalement, quand on voit tous les gens qui ont continué ce débat-là des années après, on se dit, bon, ça aurait été bien qu'il y aurait eu...
Que tout le monde soit dans son
gens,
camp.
Ouais. Ouais, que les gens aient un peu pris connaissance
team
de ce texte.
Team Iron Man.
Ouais, exact. Ouais. Le chapitre d'ensuite, c'est la structure du mauvais goût, qui est aussi quelque chose de très intéressant parce que c'est un des grands textes méconnus en français par rapport au kitsch. On cite toujours Hermann Broch et puis quelques autres, mais c'est quand même le livre, l'article de Echo est très intéressant sur le kitsch parce que ça rejoint aussi beaucoup et à chaque fois, c'est pour ça que je dirais c'est son art de ne pas être dans les contradictions, mais d'assumer que c'est quelqu'un qui à la fois adore, parce que c'est clair que c'est sa formation, tout ce qu'il a lu quand il était petit, c'est vraiment Sandokan, c'est toute la tradition du roman feuilleton populaire italien, Salgari, etc., mais aussi français, Eugène Sue, Les Mystères de Paris, tout ça, mais aussi les fumetti, donc les bandes dessinées, il appartient tout à fait à la première génération, celle qui a vraiment lu Superman et compagnie.
En temps de guerre, donc, littéralement.
Voilà. Ouais, ouais. Et donc, ça, c'est quelque chose, c'est un passé qu'il a entièrement assumé. Il a consacré un roman, d'ailleurs, La Flamme de la Prince. Là, je n'ai plus le titre en tête, mais c'est un de ces... où il y a beaucoup d'illustrations très intéressantes, parce que c'est une sorte de roman un petit peu... En tant que roman, ça ne marche pas tout à fait, mais ça marche très bien comme quelque chose pour se rendre un peu compte de son parcours.
De son statut,
il y a beaucoup de planches qu'il a récupérées, des trucs qu'il avait marqués dans sa mémoire et qu'il exhume en allant chercher des documents, puis il retrouve la case de bande dessinée rare. D'ailleurs, le livre est un hommage entier à un personnage de bande dessinée de Femme Fatale, et le livre se présente comme une sorte de quête aussi presque proustienne, parce qu'évidemment, sa Madeleine, c'est la bande dessinée, beaucoup plus
c'est
que...
La flamme quoi?
La mystérieuse... Attends,
Tu l'avais,
la mystérieuse ça? Flamme de la reine Loana.
Oui, exactement.
Moi, je veux lire ça.
Oui, bah, en fait, oui, bah, c'est beau pour nous qui aimons la bande dessinée, etc. Il y a des très belles choses là-dedans. Ensuite, il y a un truc sur Steve Canyon, qui est de la grande bande dessinée de Milton Caniff, et où il y a carrément un sous-chapitre, le langage de la bande dessinée. Donc, c'est quand même un texte essentiel dans l'histoire de la bande de l'analyse de bande dessinée.
Dans les années 60,
ouais, 64. Oui, tout à fait. Et puis, c'est une analyse précise. Il va à fond, comme Echo fait toujours. Il aime les choses dont il parle. Et alors, il rapproche ça de façon très sympathique de Hume, du pragmatisme anglais, avec le sous-chapitre Hume et l'Indien, introduction à la recherche empirique, avec déjà toute cette idée du signe et à l'intérieur de la bande dessinée et à l'extérieur. Ah. Il y a son célèbre mythe de Superman dont on va reparler. Tout de suite après, le monde de Charlie Brown, donc ce qui est quand même très sympathique puisqu'il consacre tout un truc. Mais c'est la grande époque où les intellectuels adorent Peanuts, ça c'est vrai. mais bon.
Qui n'est pas terminé, cette époque-là est encore
non,
très...
Effectivement. Non, c'est un grand classique. Mais là encore, nous avons les deux classiques qui se affrontent avec ça. Et puis ensuite, il embarque dans un autre domaine qui est tout à fait intéressant, puis où il est resté aussi méconnu dans le monde francophone, la chanson de consommation. Et à travers, c'est le grand moment du yéyé en Italie, avec notamment Rita Pavone, et il fait une analyse extraordinaire de Rita Pavone, le syndrome de la Lolita, beaucoup de choses. Enfin, c'est passionnant, c'est vraiment 60s, c'est pop, c'est beau, ça continue à se lire. Enfin, maintenant, ça a pris, c'est un peu comme les vieux vins, ça a vraiment pris un cachet qui est totalement différent. Et puis, ensuite, il part sur un autre. Donc, vous voyez que c'est vraiment comme une machine de guerre, l'Apocalittici Integrati. Et c'est pour ça que c'est dommage, parce que certains textes ont été essaimés, mais la cohérence de l'ensemble en 64 est extraordinaire. Ensuite, un chapitre, carrément, un grand chapitre sur la télévision. Et là, c'est carrément avant que Raymond Williams travaille sur la télévision, avant que Fiske et tout ça. Et d'ailleurs, il annonce bien avant beaucoup de choses qui vont être sans cesse reprises dans l'histoire, le grand récit canonique de Cultural Studies. Alors, sur la télé, il s'intéresse déjà à toutes les questions qui vont venir, c'est-à-dire la critique du modèle de la passivité, la différence entre le dirigisme culturel avec lequel il prend aussi des distances, parce que c'est une époque où on défend beaucoup la télévision comme pédagogie versus la télévision comme commerce. Puis malheureusement, on sait qui a gagné cette bataille en général, mais en même temps, lui, il montre bien que c'est pas juste juste ça, que c'est pas juste l'opposition entre le dirigisme et le commerce. Et il finit par des petits textes, mais très très intéressants comme toujours, sur la science-fiction, notre monstre quotidien, qui est assez sympathique aussi sur l'horreur, et la stratégie du désir. Donc vraiment quelque chose d'extraordinaire en 64. Et ce qui est triste, c'est que la réception, elle va vraiment être extrêmement tardive. Certains de ces textes vont se retrouver dans la version française de Superman au surhomme, mais très peu finalement. Dans Superman au surhomme, on voit que c'est beaucoup plus les textes qu'il aura écrits, mais qui sont très intéressants aussi évidemment, par rapport à cette problématique dont on va, à laquelle on va y revenir, des traditions feuilletonesques et l'influence sur le mythe du surhomme et sa récupération fasciste. Et puis en anglais, donc ça c'est en 93 la version française, et en 94 les Américains propose un certain patchwork dans une version qui s'appelle Apocalypse Postponed, où il y a quelques textes de l'original avec des nouveaux. Ils reprennent l'apocalyptique et intégré avec le retour qu'il a fait depuis. Ils reprennent Charlie Brown, évidemment. Ils reprennent des trucs intéressants sur la télé, beaucoup de choses qu'il a fait par la suite. La contre-culture, parce qu'il a aussi écrit sur la contre-culture. Il a écrit sur les bandes dessinées chinoise, c'est On Chinese Comic Strips, Counter Information and Alternative Information, sur les radios indépendantes italiennes dans les années de plomb, donc carrément le grand moment de la contestation. Et puis, il parle même de la Cicciolina, si vous vous rappelez, c'était cette star porno italienne qui s'était présentée aux élections et qui permettait aux gens de toucher son sein pour un vote. Donc, ça a été un grand événement. Et puis, il appelle ça In Search of Italian Genius, de toute façon, assez rigolote, parce que là aussi il ne faut pas oublier qu'il était extrêmement drôle. Il a montré à chaque fois dans tous ses textes et un humour, moi je situe ça tout à fait dans la tradition d'Erasme de Rotterdam, qui je pense Eco aimait, ce que Erasme appelait le serio ludere, donc savoir s'amuser sérieusement, qui marche dans les deux sens, c'est-à-dire l'humour qui est à la fois sérieux, c'est-à-dire qui ne tombe pas dans une facilité. Maintenant qu'on parle des mauvais humoristes québécois, l'humour qui ne tombe pas dans les facilités, mais en même temps le sérieux drôle, finalement, de savoir rendre les choses sérieuses drôles, puis inversement. Et cet art-là, encore une fois, on retrouve le fait qu'il cherche quelque chose entre deux pôles et qu'il jongle avec ça.
C'est très drôle, quand même, ce que tu rappelles sur tout ce travail-là qu'Eco a fait sur la culture populaire, parce que je disais hier, pour préparer ça ici, un article assez drôle et assez fun à lire, qui est paru dans la revue Tangence, si je me trompe pas, en 92, par Julia Bettinotti et Paul Bletton.
Je
salue au passage.
Oui, tout à fait, ils sont proches. On leur a rendu hommage, puisque c'est ce qu'on a appelé l'école de Montréal des études de culture pop. Et puis Paul Bletton a écrit quelques textes
que je ne connaissais pas. Ils ont écrit un texte en 92 qui s'appelle Élémentaire, mon cher Atso, qui est très drôle, où ils reviennent sur la réception universitaire qu'a eu le nom de la rose dans les 10 dernières années. Bon, on est en 92, le nom de la rose, si je ne me trompe pas, c'est 82, mais je peux me tromper. 80. Et puis, où ils vont dire, finalement, ils vont commenter les différentes approches que les commentateurs ont pris pour aborder l'œuvre d'Eco. Avec le...
Pas le film avec Christian Slater. On va juste être 100% certain, là, juste au cas où...
De quoi? Non, pas le... non, c'est avec Sean Connery.
Oui, mais il y a Christian Slater dans son premier rôle au cinéma. Je vais juste dire ça de même. Hein. Le Jean-Jacques Cano.
Oui, non. Non.
Et puis, Bettinotti et Bletton prennent bien soin de préciser que personne dans la critique universitaire a voulu avouer que c'était un roman policier. Parce que... l'auteur du traité de sémiotique, comment l'auteur de l'œuvre ouverte peut-il être vendu dans une pharmacie avec un livre de cuisine pour le micro-ondes et, je sais pas, peut-être à cette époque-là, un disque de Céline, je sais pas. Mais il reste que personne dans la critique universitaire, en fait, tout le monde a cherché la clé. Quel est le sens caché de cette œuvre-là? C'est impossible.
Ça ne peut pas être traité comme une œuvre de littérature.
Ça ne peut pas être seulement un fichu bon roman policier.
Mais c'est intéressant, ça rejoint le fait qu'il n'y a pas eu de réception de l'Apocalypse.
Exactement, parce que justement, Echo a été reçu comme ce grand universitaire-là, enseigné dès ses premiers textes critiques, qui a une immense, finalement, un grand souffle sur la théorie. Et là, de le voir arriver avec un roman populaire, 8 millions d'exemplaires vendus, des traductions, un film au cinéma, ben ouais. Mais qu'est-ce qu'un grand universitaire va foutre dans un Jean Coutu, tu sais? Et puis, l'article est vraiment très, très drôle à lire parce que il cite finalement tous les cas de figure de la critique où finalement on a fait des études psychanalytiques très poussées, comme quoi est-ce que Echo finalement, c'était vraiment une métaphore de la sodomie avec Borges pour admettre, et jamais on ne parle du fait que c'est un roman policier et jamais on mentionne le fait qu'il s'inscrit dans un genre qui est le pas le monastic novel, mais le medieval policier, le policier médiéval, qui est un genre...
Whodunit,
le medieval Whodunit.
Qui est un grand sous-genre, parce que dans le sous-genre déjà lui-même vaste du polar historique, le Moyen-Âge est devenu vraiment une figure.
Et donc, Echo n'inaugure pas ce genre-là, ou même le polar érudit. Je veux dire, Echo est certainement pas le premier à en faire. Mais jamais, et l'article est vraiment fascinant là-dessus, jamais on a voulu le lire comme ça. Il fallait c'est le malin. Lire.
Alors qu'il fait la rencontre parfaite, comme tu dis, entre le genre qui existe déjà, le sous-genre, et le fait que c'est toutes ses préoccupations, parce que c'est sa thèse sur le Moyen-Âge avec toute la question du nominalisme, etc., qu'ensuite il a déjà écrit sur Sherlock Holmes dans le contexte de Pierce, etc., etc., et donc ce paradigme de la trace de Ginsburg qu'il connaît sans doute. Je ne connais pas le rapport, mais c'est clair que c'est deux grandes figures italiennes qui ont dû beaucoup se lire et que donc on voit le mélange complet puisque le personnage Guillaume de Baskerville incarne tout à fait la fois l'un et l'autre.
Mais ça fait très très typique d'Echo, je trouve, cette espèce de vision à 180 degrés. C'est-à-dire, puis ça représente bien aussi le personnage de Guillaume de Baskerville, qui connaît autant tous les traités papaux de tous les siècles derniers que les drogues hallucinogènes. Et c'est ce qui fait son travail de détective particulièrement efficace, c'est que justement, il y a cette vision-là qui est très héritée de Sherlock Holmes, quand même, à 180 degrés.
Oui, puis qui d'ailleurs continue à pouvoir être lu véritablement par les étudiants d'histoire. La façon dont il précisément le lien avec Ginsburg est évident parce que c'est un polar ginsburgien, non seulement parce que Ginsburg a écrit donc le paradigme de la trace avec Sherlock Holmes et Pierce, mais parce que Ginsburg avait écrit le grand texte sur les Benandanti, donc cette hérésie qui est persécutée comme de la sorcellerie, et que c'est précisément l'arrière-fond de un des arrières, des multiples arrière-fonds qu'il y a dans Le Nom de la Rose. Donc en fait tout ce qui est là est à la fois vrai et pas vrai, c'est-à-dire qu'il joue parfaitement avec le fait que c'est véridique. Il a pris vraiment à cœur de faire à la fois un roman policier, à la fois un roman historique et à la fois un roman évidemment borgésien. Donc c'est là où c'est fascinant les différents...
Et en faisant ça, puis je trouve ça tellement stimulant ce que tu viens de dire, c'est qu'il met en illustration une dynamique qui est vraiment intéressante que t'entamais avec ce texte-là sur les apocalyptiques et les initiés.
Ben, oui.
C'est quelque chose qui va nous suivre même dans notre contemporain. Moi, je sais qu'en tant que personnalité active au sein de Pop en Stock, je me fais accuser d'intellectualiser la culture pop. C'est comme si je devrais prendre une position défensive par rapport à l'activité que je mène, de dire, mais tu devrais juste nous laisser triper sur Fantastic Four puis arrêter de tout le temps mettre des... Puis ça, je trouve ça extraordinaire parce que dans le livre, on dirait que les gens... Tu sais, le livre ne peut pas se défendre là, parce qu'il est livre. Mm-hmm. Puis Echo avait probablement aucune raison d'aller défendre sa position. Exactement.
Il en a plus ri qu'autre chose.
Mais les gens montent immédiatement à dire non.
Il faut rationaliser ce plaisir de lecture-là.
Oui, ça peut pas être juste...
Et puis, il faut penser aussi, juste pour bien illustrer finalement cette espèce de vision-là... Qui traverse un peu toutes les cultures, c'est quoi le fameux livre qui tue? C'est quoi le fameux livre à la fin du Nom de la Rose? Ce qui crée finalement tout ce cafarnaum-là.
C'est quoi la mallette de Pulp Fiction?
C'est la comédie C'est la deuxième tome de la poétique d'Aristote. C'est le livre qu'il ne faut pas lire.
Et c'est pour ça que c'est mieux que la mallette de Pulp Fiction. C'est-à-dire parce qu'en réalité, parce que souvent, c'est un grand problème avec les MacGuffin, etc. C'est que finalement, bon, bah, c'est juste un ressort, un embrayeur d'intrigue. Mais là, c'est parce qu'il y a quelque chose de profondément important sur notre culture. Parce que finalement, la satire très noire qu'il fait de Borges, parce que bon, il ne faut pas oublier que Borges, il y a vraiment deux façons, enfin, il y a eu vraiment deux grandes façons de le représenter. D'un côté, il y a tout le côté ce que la postmodernité va en faire comme grand pape de tout ça. Mais il y a aussi des lectures politiques qui ont été faites sur son aveuglement, pas seulement physique, mais son aveuglement par rapport à la dictature elle-même. Et c'est tout à fait dans ce contexte-là que Eco le fait. Parce qu'il y a finalement le vouloir préserver le secret pour qu'on ne sache pas qu'il y avait cette autre chose, est aussi une critique de l'institution, d'une certaine façon de voir l'institution du savoir, etc. Et l'ironie ultime de tout ça, de ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il va écrire l'apostille au nom de la rose. Donc, pour justifier sa position, il va livrer un texte théorique essentiel sur la postmodernité. Et peut-être le seul, réellement, qui reste extrêmement présent,
valide,
etc. Et donc, c'est là où, finalement, il ouvre les voies. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il nous réconcilie avec plein de choses, parce qu'il nous réconcilie aussi avec un discours universitaire sur la postmodernité qui était aussi rabat-joie que le discours qu'il pouvait y avoir contre la culture populaire. Ouais. Finalement, c'est pour ça que le Serio Ludere d'Erasme est important chez Eco, c'est que c'est aussi une joie de vivre. Il montre qu'il y a une joie de lire qui va dans une joie de vivre et que finalement, on voit qu'il aime Superman, qu'il aime Charlie Brown, etc. On voit qu'il comprend pourquoi c'est si bien fait. Mm-hmm. Et c'est pour ça que contre les fans qui trouvent qu'on souille ou qu'on désacralise ou qu'on désenchante leur monde, finalement, avec Eco, on n'est pas dans le désenchantement. Au contraire, on est dans le fait de voir à quel point c'est admirablement bien fait. Ouais. Et c'est là où c'est très intéressant parce qu'il devient un peu lui-même une sorte de philosophe médiéval qui découvre la beauté du monde et qui dit à travers la beauté du monde, il y a la beauté de Dieu. Et c'est tout à fait dans cette tradition-là. Je pense qu'il y a quelque chose, bon, sans nécessairement le contexte déiste, mais c'est dans cette tradition-là de observer les choses, non pas pour les détruire, mais au contraire pour montrer à quel point elles sont belles dans leur fonctionnement. Et que ce n'est pas des no-brainer, parce que sinon, le problème, parce que j'aime bien l'enchantement du fan, évidemment, et c'est aussi une position avec laquelle nous jouons tout le temps. Quand on va voir un film, on n'est pas nécessairement en train de l'analyser systématiquement. On va le faire peut-être à une deuxième, une troisième vision. Mais il reste que je n'aime pas non plus l'idée du no-brainer que finalement toute cette culture-là, il ne faut absolument pas essayer de la comprendre. C'est faux, parce que même, je me rappelle, et puis je pense qu'Eco nous illustre tout à fait sur ça, même quand on est petit, on essaye de comprendre ce qui se passe. On essaye de comprendre pourquoi Superman ne peut pas faire ceci ou cela. Et c'est finalement de montrer que ces questions-là ne sont pas seulement légitimes, mais qu'elles sont inscrites elle-même dans cette culture. C'est pas une culture qui est faite par des gens ni naïfs, ni stupides, ni illuminés. C'est une culture qui est faite par des auteurs de la même façon que l'autre culture. Et bon, même si maintenant la division, je pense, n'a plus vraiment de sens. Mais en tout cas, pendant longtemps, il y a eu une division. Et tout simplement, c'était des artistes qui fonctionnaient dans des cadres différents de production. Mais ils avaient recours exactement aux mêmes problématiques par rapport au récit. Et c'est ça que Eco fait tout à fait très bien, et ce qui recueille bien du Superman au surhomme en parlant sur Eugène Sue, etc., etc., c'est qu'il montre à quel point il y a une maîtrise narrative qu'il ne faut pas juger. Et c'est ça qui est très important, parce que bon, on a beaucoup oublié les feuilletonistes, etc., mais parce que la culture populaire est aussi dans une sorte d'obsolescence programmée. Puis je vois à chaque année que les étudiants connaissent des choses qui sont vraiment dans leur spectre temporel très, très limité. Mais donc les choses du 19e sont un peu en train de disparaître de la mémoire collective. Mais lui, il montre non seulement à quel point nous sommes redevables de cette culture du roman feuilleton du 19e et que nous sommes dans ces archétypes, mais aussi dans ces fonctionnements narratifs. Et puis, il montre que ce n'est pas intéressant de juger Eugène Sue par Balzac, ni Alexandre Dumas, qui est quand même celui qui est resté, je pense, c'est véritablement l'auteur ultime. Et Eco, je pense, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense qu'il a beaucoup hérité de Dumas dans un sens. C'est ce grand appétit de vivre. Et Dumas, d'ailleurs, que l'on a toujours à tort considéré comme un auteur simplement populaire, alors que c'est lui qui écrit le premier drame romantique avant Hugo. Donc bon, c'est quand même fou, c'est quand même celui qui crée la vraie révolution romantique dans l'esthétique en France, c'est Alexandre Dumas. Et bon, tout ça, on a beaucoup oublié.
On est sur Dumas!
Il y a quelque chose de quand même assez... Je vois bien ce que tu dis sur il ne faut pas juger, mais Écho, et puis je pense que tu l'as quand même, t'as quand même beaucoup insisté là-dessus, Apocalypse et intégré.
Oui, apocalyptique et intégré.
Intégré, voilà. Mais il y a quand même, chez Écho, une relation un peu conflictuelle avec la culture populaire, ou entre autres dans le premier, je dirais peut-être pas conflictuelle, mais en tout cas, il y a des mises en garde. Surtout sur la question du récit puis de la narration. Dans le premier essai de Superman au surhomme qui s'appelle Pleurer pour Jenny.
Sur Love Story, qui a été un grand best-seller, très oublié aussi.
Exactement. Où il dit finalement, c'est la recette, c'est la chimie ne se trompe pas, mais... il faut pleurer. Mais, donc, il va dire, le roman feuilleton, je pense à ce moment-là, qui l'analyse dans son article, il dit, c'est la fabula à l'état pur, où finalement, ça devient une narration, une espèce de système, on ne se réinvente pas, il parle encore en système, où à l'intérieur duquel tout, entre guillemets, fait sens, tout trouve son sens. Puis donc tout se résout, tout finalement, selon tout obéit des règles qui apparaissent comme naturelles. Mmh. Au lecteur. Et ça, Écho est assez méfiant par rapport à ça, parce que la lutte entre le bien et le mal trouve toujours son résumant en faveur du bien. Il va dire impossible de créer une crise sans la résoudre. Et donc, Écho va un peu statuer de façon assez sévère en disant que la littérature populaire est commode. Mmh. Elle est confortable et qu'elle ne fait que répéter... je le paraphrase évidemment parce qu'il est beaucoup plus subtil que moi, mais il ne fait que répéter et renforcer des structures qui sont consensuelles. Ouais. Et ça, pour Écho, quand même, un Italien né en 1932... ça fait un peu peur, parce que pour lui, la fabula à l'état pur, qui ne fait que se conforter elle-même, ça ouvre la porte à bien, bien des choses. Et il fait bien attention de rappeler que Mussolini était un auteur de romans à l'eau de rose.
De romans feuilletons.
Et que finalement, cette rhétorique-là, parce qu'il insiste beaucoup sur le fait que le genre, chez Aristote, entre autres, oui, vient de la poétique, mais vient aussi de la rhétorique. Est-ce que c'est traité autant dans les deux? Et puis...
c'est pas juste qu'est-ce que tu racontes, c'est comment tu le racontes.
Exactement, exactement. Et donc, pour Écho, dans une espèce de formule qui rappelle un peu le discours de Yoda sur le côté obscur, le genre populaire, la narration pure, ouvre la porte au populisme, qui même peut mener au démagogisme, et qui, ultimement... peut mener au fascisme, parce que ce sont des discours confortables qui... Donc, Écho, surtout dans cet essai-là, et c'est pour ça que je disais qu'il n'est pas contradictoire, mais il va se reprendre dans Superman, où il va aller beaucoup plus loin dans ses...
Je vais bondir ad hoc, parce que tu as tout à fait raison par rapport à cette mise en garde. Le texte, surtout le texte français, qui est quand même différent, comme on a vu dans la recette de Superman au surhomme, est un texte en français et qui véritablement ancré sur la problématique établie par Gramsci, donc je cite, je crois que l'on peut affirmer que la prétendue surhumanité de Nietzsche a pour origine et modèle doctrinal non pas Zarathoustra, mais le conte de Monte Cristo. Et donc ce qu'Umberto Eco va faire, c'est exposer à quel point Gramsci, qui était aussi c'est vraiment fascinant ce que Gramsci a écrit, ce qui est qu'on ne trouve que dans les vieilles éditions ultra-marxistes que j'ai eu la chance de pouvoir récupérer quand j'habitais en France par-ci par-là. Mais tout ce que Gramsci a écrit sur la culture populaire est extraordinaire. Ce sont des petits textes extrêmement concis. Je pense que Écho a aussi énormément appris de Gramsci, la façon dont il écrit. Donc oui, mais alors que pour Frankfurt, etc., ça voulait vraiment dire que la culture populaire, parce qu'eux aussi, ils avaient fui le nazisme. Ouais. Et puis eux, quand ils ont débarqué aux États-Unis, puis ils voient la radio, puis ils voient la télé, puis tout ça, ils se disent, mon Dieu, c'est exactement... C'est un peu comme The Man in the High Castle de Dick. Mm-hmm. C'est, oui, le cauchemar continue. On est encore dans un truc où on entend tout le temps les mêmes trucs à la radio, etc., etc. Et donc, ils ont fait vraiment un plaquage du modèle de la propagande sur le modèle du entertainment. Mais c'est là où je te reviens, Haddock, sur le texte de Pleurer pour Jenny, parce que ça finit d'une façon qui, je pense, est extrêmement fascinante, enfin, et clairement démontre cette volonté d'une troisième voie chez Echo. Parce qu'il écrit « Si notre discours est ambigu, donc là, c'est l'accusation que tu lui fais. Si notre discours est ambigu, la façon dont tu l'as lu, c'est ça. Si notre discours est ambigu, c'est probablement que plus la narrativité est dégénérée. Et là, il faut dire qu'il n'utilise pas le terme à la façon dont les nazis utilisaient l'art dégénéré. C'est qu'il dit que finalement, il y a eu une évolution et que l'art populaire a eu un premier moment qu'il considère qui a été démocratique parce que ça allait beaucoup avec les révolutions bourgeoises, etc., etc. Et que peu à peu, ça a perdu cette fonction initiale. Alors, c'est dans ce sens-là. Alors, si notre discours est ambigu, c'est probablement que plus la narrativité va dans ce sens-là, plus elle nous attire. Et son charme irrésistible légitime notre désir de la révisiter, la faisant aujourd'hui objet de notre intérêt à mi-chemin entre méfiance et admiration. À la fin, un petit peu après, il dit « En guise de conclusion provisoire, nous souhaiterions que toute révisitation du feuilleton ne se limite pas à un exercice de nostalgie, mais soit l'occasion d'ouvrir un discours critique, sans que celui-ci soit troublé par des préjugés ironiques ou moraliste immédiat, susceptible d'empoisonner ce que ces pages savent nous donner, la joie du récit comme fin en soi. » Et il a cette très belle formule. Donc, si Oliver pleure pour Jenny, gare à l'infâme qui sourirait, mais gare aussi au naïf qui se bornerait à pleurer. Il faut savoir démonter les mécanismes. Ouais. Et je pense que cette phrase-là est extraordinaire, parce que c'est exactement ce qu'il dit. Alors que Francfort, il n'y a jamais ça chez Adorno, etc., parce qu'il y a une vraie détestation de bon, et là encore, il faudrait trouver l'autre terme, tiers-terme, qui est Benjamin, qui lui est aussi tout à fait un peu à part. Mais quand Adorno, il oppose le jazz à Stockhausen, c'est que véritablement, il y a quelque chose qui est de l'ordre du manichéisme. Il y a d'un côté l'avant-garde, ça c'est bien parce que ça nous aide à réfléchir, etc. Et de l'autre côté, il y a tous ces trucs complètement abêtissants, etc. Alors que là, je trouve que dans cette formule, Echo fait exactement ce qu'on disait, c'est qu'il montre, nous aimons à la fois cette culture-là. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'en 64, c'était un peu rare finalement de le dire de façon aussi claire. On aime cette culture-là parce qu'il est de la génération qui a écouté le jazz, qui a grandi avec tout ça. C'est sa culture déjà. Donc, on aime ça, mais en même temps, on n'est pas dupe. Et c'est là où c'est intéressant. Et je pense que cette tension est non seulement souhaitable, mais je pense qu'elle est nécessaire. En tout cas, nous, avec Samuel, je pense qu'on s'est retrouvé tout à fait là-dessus par rapport à l'idée initiale de Pop en Stock, etc. C'était véritablement ça. C'est ne pas venir pontifier sur les bienfaits ou les torts de la culture populaire. C'est véritablement la volonté de comprendre comment elle fonctionne. Ouais. Et je pense que c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où c'est aussi un modèle plus gramscien, plus subtil et plus nuancé. C'est qu'il faut comprendre comment fonctionnent aussi d'un point de vue politique. C'est-à-dire si on ne veut pas... Parce que finalement, j'aime beaucoup aussi évidemment La Société du spectacle paru 3 ans plus tard et qui ne connaît pas du tout toute cette réflexion et qui fait d'un bloc monolithique du spectacle qui est purement l'aliénation totale, etc. C'est très puissant, mais en même temps, évidemment, ça nous laisse dans quelque chose que c'est vraiment take it or leave it, c'est vraiment... Alors que là, c'est cette situation qui est un peu inconfortable, il le dit lui-même, ambigu, c'est un peu inconfortable, c'est qu'à la fois être sensible à ce que la culture populaire nous propose, il le fait aussi très bien avec Superman, il y a des belles réflexions sur évidemment, c'est les pages de l'âge d'or, c'est avant qu'il y ait la problématisation, tout ça. Et là aussi, il y aurait un autre chapitre à ouvrir, je ne sais pas si on aura beaucoup mais c'est le fait que Echo parle aussi d'une culture populaire à un moment donné. Oui, et qu'ensuite, je pense, mais il reste très important parce que par rapport, non seulement d'un point de vue archéologique, par rapport à tout ce qu'il dit sur le 19e et tout ce qu'il dit sur la première moitié du 20e siècle, mais ça nous aide aussi à comprendre un peu ce qui vient après. Parce que finalement, après, ce qui arrive, c'est que la culture populaire s'accapare et s'approprie partie des éléments de la culture problématique que Eco a par ailleurs analysé dans un super bouquin qui est L'œuvre ouverte, qui est un des grandissimes textes si on veut comprendre l'art moderniste, les avant-gardes du XXe siècle.
Donc, et qu'il Eco distinguait a fait les deux. Qui vraiment en faisait deux catégories, l'art problématique et l'art confortable ou consensuel.
Oui. L'idéologie de la consolation.
Exactement.
Mais qui est encore très important parce que je pense, moi-même, je suis. Enfin, on est tous tiraillés parce que finalement, ce n'est pas monolithique. On voit bien que c'est complètement. Je pense, moi d'ailleurs, qu'on n'est plus du tout dans l'époque de la division. On est dans une époque d'entrecroisement de tout ça. Mais ce que l'on voit bien, c'est qu'il y a encore des produits qui fonctionnent vraiment à l'idéologie de la consolation. Et je pense que tu voulais évoquer Captain America, puis il se trouve que je l'ai vu hier aussi, et que j'ai aussi trouvé que c'était vraiment un retour complet de l'idéologie de la consolation. Mais bon, ce n'est pas étonnant dans ces films super-héroïques blockbuster, mais bon.
C'est parce que c'est plus, c'est un rappel à une conversation qu'on avait en préparation à l'émission, c'est qu'on parlait de la division, en fait, que Echo fait dans Superman, Superman entre cette idée-là de la possibilité de faire un mythe ou la possibilité de faire un personnage romanesque, en fait, un personnage mythologique ou un personnage romanesque, et que le comic book était continuellement sa ligne en train d'amener. Puis là, on a parlé du Golden Age, puis je disais plutôt que ça dépend des époques. C'est le pied est directement sur la ligne, des fois le talon va un peu plus d'un côté, des fois va plus de l'autre. Et que Jean-François, du tac au tac, de tout son esprit, il va sortir son espèce de réflexion sur Batman, Superman, que il y avait une espèce de volonté, ou du moins, je veux pas te paraphraser pendant que t'es dans la pièce.
C'est plus gênant. Non, mais en fait, si on va un petit peu dans le mythe, l'essai du mythe de Superman, dont il faut quand même parler
en
culture populaire, Echo, à mon sens, fait une lecture très, très, très fine du genre, finalement, en partant, évidemment, d'Aristote, parce qu'il part toujours d'Aristote, parce que tout le monde part toujours d'Aristote.
Non, moi, je parle d'Antonio.
Ouais. L'Aristote de Lucan. Il part de cette définition très prescriptive des genres pour montrer comment ça répond à une logique du mythe, ça répond à une logique de l'itération, condition de la mémoire, qui est basée finalement sur une culture orale, qui fait que le mythe est ce retour constamment-là, cette itération-là du même, et que ça fonctionne très bien dans ce système-là. Et tout en soulignant, par contre, qu'il y a eu des translations, entre autres avec les romans. Ensuite historique, je veux dire avec le romantisme, les théories hegéliennes, l'avènement du droit d'auteur, et qui fait que finalement on tombe dans l'âge du mythe, on passe à l'âge du roman, et donc avec des processus de diffusion mais de production complètement différents, où on était dans la répétition, dans l'itération, dans l'âge du mythe, on tombe dans l'invention.
Oui, parce que là, au début, quand c'était dans l'oralité, on devait répéter les histoires continuellement pour qu'elles restent actives. Là, on est capable de les mettre dans un bouquin, et même s'il n'y a personne qui est en train de la raconter, cette histoire-là, elle reste intacte.
Oui, c'est aussi l'invention vend. L'invention, c'est ce qui sert à le système économique du livre est basé sur l'invention. Mais où Echo est très intéressant, c'est qu'il va dire que le Superman ou le super-héros marche cette ligne-là qui est extrêmement difficile à tenir entre l'itération, il faut que Superman soit Superman, et l'invention.
Toujours, alors chaque épisode, des milliers de.
Oui, mais il faut. On peut pas redire Superman ad vitam aeternam parce qu'il n'y a pas d'économie du comics. Alors, il faut. Cette ligne-là est tellement mince que les très mauvais auteurs qui passe de un ou de l'autre, tombe dans l'oubli. Et moi, je pense personnellement que c'est le problème avec Batman vs Superman, c'est qu'il ne comprenait jamais que Snyder, parce que moi, je blâme Snyder, je sais que toi, tu...
Ouais, moi, je suis un peu plus sur le... Je blâme le duo, là.
Snyder a complètement trahi le mythe de Superman.
Et il y aurait quelque chose de super intéressant, Jim, je pense que tu serais tout à fait, tu pourrais tout à fait t'attacher à la tâche. C'est que, quand il fait le mythe de Superman, ce qui est fascinant, c'est que, en une note en bas de page, il commence à parler des autres super-héros. Oui, oui, oui. Et on voit l'apparition de Fantastic Four. Donc, on voit que tout est en train de commencer du côté de Marvel et que la révolution vers le héros problématique à la Lukács, qui est précisément l'analyse qui est en train de faire Echo, est en train de se faire. Donc, bon, je ne pense pas que Stan Lee a lu l'article de Echo. Ceci dit, on voit bien qu'il y a une synchronicité extraordinaire. Parce que ce que Echo est en train d'analyser comme problématique, et Stan Lee le prend comme base de départ pour sa refonte des super-héros. Parce que finalement, ce qu'il va réussir, c'est à introduire la problématisation lukacsienne et romanesque dans le panthéon des super-héros. Et puis, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'Umberto Eco, une des analyses vraiment les plus porteuses de futur, parce que c'est quelque chose qui s'applique vraiment à l'âge d'or, mais en fait, il a une intuition de ce que ça va être que la voie pour l'âge, pour les différents âges à suivre. C'est quand il analyse le fait que finalement Superman est condamné au what if, aux histoires, puisque comme il ne peut pas évoluer, il ne peut pas se marier puis divorcer, etc., parce qu'il faut toujours qu'il revienne à lui-même et qu'il revienne à sa tabula rasa de personnage mythique, et que donc, que la façon de créer des nouveaux récits, ça va être les visions alternatives. Oui. Alors, c'est ça qui est fascinant parce que c'est exactement ce que DC et Marvel vont faire systématiquement Earth avec two, Crisis on Infinite Earth, etc., etc., et avec l'idée qu'on redémarre le Panthéon par une crise totale. Et donc, c'est là où c'est intéressant parce que c'est pas seulement un texte qui analyse le passé de Superman, mais il pose les jalons de ce que les super-héros vont devenir. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que ce serait un article très intéressant de faire une lecture du mythe de Superman dans le contexte exactement où il l'a écrit par rapport aux super-héros, ce qui était en train de se passer.
Mais en même temps, il proposait, c'est ce qui est vraiment intéressant avec Echo, c'est qu'il est autonome dans sa réflexion parce que en marge, il propose l'idée des mondes possibles et incompossibles. Qui, moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui le théorise dans un cours, je finis toujours par dire, ben c'est Earth X, c'est Earth 16, c'est Earth Arrête, c'est Batum Bray, c'est Gotham by Gaslight. Puis moi, il y a aucune manière. François, qui est de ma cohorte en sémio, travaille sur les mondes possibles et incompossibles. Puis moi, je suis comme, mais t'as pas lu Crisis on Infinite Earth, ça fait que tu m'apprendras rien là-dessus, malheureusement. Je trouve ça fantastique.
Oui, oui, puis c'est ça qui va être le grand tournant méta des super-héros. Puis Umberto Eco, en analysant l'âge d'or, il avait compris que c'était la voie par laquelle, et donc les gens de DC vont suivre cette voie-là quand ils vont se dire, bon là c'est plus possible, bon ils ont acheté plein de super-héros, etc., etc., il faut les intégrer, il faut homogénéiser tout ça. Donc c'est assez intéressant. Mais à partir d'un moment, je pense que les super-héroïciens, les écrivains de super-héros ont lu Eco. Je pense qu'il y a aussi un avant et un après. Ça s'est installé. Mais je pense pas du tout qu'en 64, Stan Lee ait eu connaissance de ça.
Ni Zack Snyder.
Non, mais ce qui est...
Je te laisse la minute pour conclure, parce que...
Ce qui est fascinant, vraiment, dans cette belle catastrophe qu'est le lancement de la franchise de DC au cinéma, c'est vraiment... on n'est pas dans cette logique-là de la refonte. Hein. On n'est vraiment pas dans la logique des différentes Earths. On est vraiment dans... Même le choix est assez basé, de dire on commence in medias res, Batman revient, Superman est déjà actif, pas d'origin story. On commence, mais le problème là-dedans, c'est que on se fie au mythe. Batman, on peut jouer avec le mythe de Batman. Frank Miller le fait de façon, probablement la plus connue, mais juste de faire que Superman se demande qu'est-ce qu'il doit au peuple terrien, qu'est-ce que je leur dois, là, on va jouer très très loin dans l'itération, justement, où ce que je dis à Jim tout à l'heure, on passe plus de temps à se demander. Est-ce que c'est vraiment Superman? Et donc, le film ne se fait plus pour le spectateur parce qu'on est toujours en train de comparer les brisures dans le mythe.
Oui, et il reste pris dans l'opposition que établit Echo entre la conscience civile et la conscience politique. Ouais. Et ça, c'est fascinant parce qu'il a vraiment mis le doigt dessus et on reste tout à fait là. Dès qu'on veut confronter les super-héros du panthéon cinématographique contemporain avec la conscience politique, on se rend compte qu'il y a vraiment un catch-22.
Donc, je vous aime fort, mais c'est sur ça qu'on va conclure. Bon. Merci énormément à vous deux.
Merci,
on va aller écouter.
Merci
de faire d'avancer ça.
On va l'écouter Rita Pavone. Parce que...
on n'a pas eu le temps, mais rappelez que Echo aussi avait créé avec Schtroumpf und Drang en 1979 les bases de la schtroumpfologie à laquelle j'ai dédié consacré avec Sébastien Hubier, mon prochain ouvrage.
Tú estás sufriendo cosa posso fare per te. Me sono innamorata e per te pace no, no, non c'è. Mondo se rido e se piango è solo tu dividi con me. Yeah. Ogni lacrima, ogni palpito, ogni attimo d'amore. Sto vivendo con te i miei primi tormenti.
Je vous drive sur un transat en kit. Un verre de rhum, une paire de rames pour la Starseed.
Comme nous avons tout.